7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On va parler aujourd'hui de l'édition jeunesse en Afrique. C'est le continent le plus jeune de la planète et pourtant, les enfants et les adolescents lisent encore trop souvent des histoires inventées, dessinées sous d'autres latitudes. Alors bien sûr, les héros de manga japonais peuvent faire rêver les enfants du monde entier, c'est le propre de l'art d'être universel, mais tout de même, comment permettre à des auteurs, à des illustrateurs africains de publier leurs propres histoires et d'être reconnus pour leur talent? Avec le développement de la classe moyenne, le marché est là, les artistes ont des idées, y compris en numérique et dans des langues du continent. Nous allons leur donner la parole. Bonjour Laurane Safou.
Bonjour.
Laura, vous êtes autrice jeunesse, militante afro-féministe. Vous publiez Les Lumineuses, beaucoup d'histoires de femmes dans vos histoires pour les enfants. Album illustré, papier et audio. Audio de 12 histoires, publié chez Luni, ma fabrique à histoires. J'ai sous les yeux Fadilla et le chant de la rivière. Très très belles illustrations, parce que ça compte beaucoup dans un livre pour enfants. Exactement. Le dessin compte autant que le texte. Hein.
Tout à fait.
C'est 50-50. Également avec nous, Christian Elongué. Bonjour.
Bonjour.
Christian Elongué, vous êtes Camerounais, vous êtes à Accra, où vous habitez au Ghana, et vous avez créé l'association Mouna Kelati, qui est dédiée à l'analyse et à l'actualité de la littérature d'enfance et de jeunesse en Afrique. Et vous nous donnerez votre point de vue sur ce secteur qui bouge hein, et qui est très prometteur. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous quelles sont les histoires qui ont bercé votre enfance et comment elles vous ont aidé à vous construire aussi en tant qu'adulte. Vous nous appelez sur le compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. En France, c'est la 36e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est un salon, hélas, en digital cette année, à cause du coronavirus. Donc les enfants ne peuvent pas rencontrer physiquement les auteurs, comme c'est le cas chaque année. Mais c'est en tout cas un événement qui a vraiment structuré l'édition jeunesse et qui a permis d'aller à la rencontre de son public. En fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, qui donne des conseils parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on abordera les dangers d'une séparation précoce parents-enfants, notamment les pratiques de confiage d'un enfant à un oncle ou à un autre parent. Voilà, je vous rappelle notre numéro WhatsApp pour participer au débat sur l'édition jeunesse en Afrique, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'une éditrice entrepreneuse. En 2015, Adja Soro a créé sa maison d'édition, Voyelle, en Côte d'Ivoire, et un magazine illustré qui met à l'honneur des figures historiques et contemporaines africaines pour les enfants, le magazine Bulle. Une initiative encore trop rare. Notre reporter Inès Edel Garcia a rencontré Adja Soro dans ses locaux à Abidjan, dans le quartier d'Angré.
Ici, on a le bulle numéro 6 qui est dédié à l'histoire de l'Éthiopie, l'Éthiopie d'avant et l'Éthiopie d'aujourd'hui. Nous racontons l'histoire d'une impératrice, Tetul Betul, qui était une femme très courageuse, qui n'avait peur de rien et qui s'est battue pour préserver la liberté de son peuple. C'est la femme qui, face au combat, a dit aux hommes « Ou vous vous battez, ou je vous donne ma robe et vous me donnez votre pantalon et j'irai au front. » C'est une femme très courageuse et nous avons eu envie dans notre maison d'édition de la présenter aux enfants, de leur dire qu'il y avait déjà ces femmes fortes en Afrique depuis de longs siècles.
Comment est née l'idée de Voyelle et puis plus particulièrement de la revue Bulle ?
Voyelle vient d'une passion pour la littérature que j'ai depuis enfant. Une passion qui est restée très longtemps enfouie parce que je devais suivre le chemin que mes parents m'avaient fixé. Mais adulte, après avoir travaillé dans un domaine qui n'était pas forcément le mien, j'ai décidé d'arrêter et de lancer une maison d'édition. Et j'ai cherché ma voie. Qu'est-ce que j'allais proposer de nouveau? Qu'est-ce que j'allais apporter de plus? Comment je pouvais impacter ma communauté en créant cette maison d'édition? Et cela est parti de rencontres, des personnes qui m'ont fait leur retour sur leur vie, de personnes qui vivent à l'étranger, d'expatriés, qui se rendent compte une fois loin de chez eux que finalement ils ne savent pas grand-chose de leur histoire. C'est nos enfants qui aujourd'hui à l'école apprennent tellement de choses, mais tellement de choses qui sont parfois très éloignées de leur propre culture. C'est des enfants, mais vraiment quelle que soit la classe sociale, qui ont ce retour-là de... Ils savent pas c'est quoi l'Afrique. Pour eux, c'est un village de pieds nus. Pour eux, c'est... Certains même ne se rendent pas compte qu'ils sont en Afrique. Ils ont l'impression que l'Afrique, ça reste quelque chose de lointain, de mystérieux, de misérable ou de je ne sais quoi. Et c'est des enfants qui, quand ils ont conscience qu'ils sont en Afrique, ne veulent pas rester vivre en Afrique. Parce qu'on leur a toujours vendu des super-héros, des jouets, de l'animation. Enfin bref, tout leur imaginaire était construit, tourné vers l'Occident. En maternelle, on leur apprend des chansons sur la neige, sur Noël et tout. On ne peut pas leur en vouloir de vouloir voir la neige, parce que c'est ce qu'on leur apprend à l'école. On ne leur apprend pas de chants sur la beauté des cultures africaines, sur les fêtes des ignames, sur ce genre de choses. Quand je fais des jeux simples avec eux, les villes, quelles sont les villes que vous connaissez? Ils connaissent toutes les villes d'Europe. Mais quand on leur dit des villes africaines, ils ne savent pas. C'est normal parce qu'on leur apprend justement l'histoire, les guerres mondiales et plein d'autres choses qui sont sur l'Occident, mais très peu sur des contenus de chez eux. Ils ne savent rien. Et cette carence-là m'a effrayée. Je me suis dit, mais quel genre d'élite vous serez demain si vous ne savez rien, rien du tout de chez vous? Donc c'est tout ce mélange-là qui m'a fait me dire, il est peut-être temps de savoir c'est quoi déjà l'Afrique, loin des préjugés, comment leur apprendre à en être fiers et aussi à pouvoir être ces personnes-là qui vont défendre leur continent demain, qui vont se battre pour relever l'économie, qui vont se battre pour que les droits soient respectés, et ainsi de suite.
C'est quoi finalement ce que vos parents avaient voulu pour vous? Vous avez l'air de dire que c'était radicalement différent de la littérature. Pourquoi la littérature était si mal vue à leurs yeux?
Il y a l'idée selon laquelle le livre, les Africains ne lisent pas. Ça, c'est une idée qui est fausse, mais qui est très répandue. Et du coup, si les Africains ne lisent pas, c'est qu'ils n'achètent pas de livres. Donc s'ils n'achètent pas de livres, c'est qu'il y a... Rien de rentable à être écrivain africain. C'est comme ça que mes parents le voyaient. Tu es jeune, tu es un peu trop intelligente pour être écrivaine. Voilà. Grosso modo, c'est dommage de le penser. Mais pour eux, c'était une façon de me protéger en disant, tu vas faire des livres que les gens n'achèteront jamais, donc ne te lance pas dedans, fais comme papa, fais finance.
Mais n'en déplaise à ses parents, Adja Soro ne s'est pas contentée de créer une maison d'édition. Elle a également fondé un studio d'animation 2D avec toujours la même ambition, celle de raconter des histoires et de développer des imaginaires qui soient en phase avec la réalité du continent africain.
Et voilà qu'une femme étrange, aux yeux sombres, arrive au même moment dans le marché. Qui veut de belles carpes? Il y en a de toutes les tailles et de tous les goûts.
Combien pour tous ces poissons?
Juste 2 francs.
2 francs? Ces poissons en valent au moins 30 chacun.
Écoute-moi, ma fille. Nous sommes les poissonnières du village. Nous nous connaissons toutes. Cette fille n'est pas d'ici.
Laissez-moi tranquille, bande de jalouses.
Aïe! Qu'importe si c'est
poissons. Ce dessin animé, c'est nos tenues, c'est le bruit de nos marchés, c'est nos accents, nos expressions, nos chiei, nos why, nos... Ce genre de choses qui sont typiquement de chez nous, c'est aussi ce côté, on va dire, un peu moralisateur de nos contes d'avant qui ont toujours cette fin-là qui nous permet de comprendre quelque chose sur la vie en société. C'est tout ça, c'est limite c'est les saveurs de chez nous quoi, qu'on retrouve dans cette série.
Là, enfin, on a des gens qui ressemblent aux Ivoiriens.
Exactement, on a vraiment voulu avoir des personnages qui nous ressemblent, avec des cheveux crépus, avec des foulards, avec vraiment qu'on ait l'impression de regarder un film fait sur place, quoi, mais en animé, c'est l'idée.
Aujourd'hui, un enfant qui grandit à Abidjan ou dans le reste de la Côte d'Ivoire, quels sont les dessins animés qu'il regarde, par exemple, à la télé?
Il regarde toute l'offre que les chaînes internationales nous donnent, un peu moins les chaînes locales, mais plus ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est très décalé par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de regarder. Après, c'est toujours de l'imaginaire. Hein. On ne veut pas forcément couper tout en leur disant ne regardez plus ce qu'il y a ailleurs. Non, regardez tout ce que vous voulez. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez des choses aussi qui ressemblent à ce que vous avez l'habitude de vivre, qui se rapprochent un peu plus de vous.
Adja Soro, éditrice en Côte d'Ivoire, elle a le mérite de mettre les pieds dans le plat, Laurane Safou. Est-ce que vous aussi, vos parents vous ont dit « tu es trop intelligente pour être écrivaine »
Alors non, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup entendu, soit justement dans ma famille, enfin basée au Congo, ou un petit peu même dans culturellement en fait, cette idée que le livre n'est pas quelque chose d'utile, que n'est pas quelque chose de pragmatique, qu'il y a cette part d'imagination. imaginaire qui n'est pas nécessaire à la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec le témoignage de Adja Soro, c'est la manière... Enfin, je vois en fait comment, finalement, la carence, j'adore le terme justement qu'elle utilise, la carence qu'elle dénonce par rapport à l'offre littéraire ou même...
La carence culturelle.
Voilà, carence culturelle qu'elle dénonce en fait par rapport au fait que la majorité des enfants en Côte d'Ivoire soient exposés finalement à un imaginaire très occidental, quitte à être déraciné par rapport à la réalité de leur continent. Et un peu celle aussi que l'on vit ici en étant né en Occident et issu de la diaspora en fait. Donc voir que même cette proximité au continent ne permet pas d'accéder finalement à un imaginaire qui met en avant toute la richesse culturelle en fait qui existe ou toutes les histoires ou toutes les influences qui sont possibles, c'est assez alarmant je trouve.
Ouais. Il ne s'agit pas de dire dans cette émission qu'il faut réduire l'imaginaire de l'enfant à sa propre proximité culturelle. Hein. Ça peut être formidable de découvrir aussi les mangas japonais pour un petit européen ou un petit africain. Mais au moins d'avoir à disposition une offre culturelle de sa propre culture.
Bah, c'est finalement en fait, d'avoir une réelle littérature universelle. En fait. Parce que finalement, ce que montre bien aussi son témoignage, c'est que l'offre, ou du moins l'accessibilité à un imaginaire occidental est plus facile pour ces enfants qu'un imaginaire qui soit proche en fait, de leur quotidien, proche de leur réalité, et qui ne les permette pas, finalement même de connaître un peu plus leur continent. Et je vois vraiment le contraste avec, en tout cas, ce que mon père me disait, qui me présentait la littérature comme un moyen justement de contre-pouvoir par rapport à ne pas rester justement sur cette image de l'Afrique avec une image ultra misérabiliste, avec cette idée qu'il n'y a pas de ville ou de choses comme ça, très stéréotypées et très coloniales finalement. Donc il y a un enjeu aussi d'éducation qui se joue à la fois à l'école, comme elle le dit, mais aussi dans les familles finalement.
Christian Alongué, vous êtes à Accra, spécialiste de la littérature jeunesse en Afrique. Vous êtes d'accord avec ce que disait Laurane Safou sur l'enjeu culturel, intellectuel de cette littérature pour enfants et pour adolescents ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été partagé. Tant plus que j'ai été également victime de la majorité des cas qu'ils ont eu à évoquer. Je me souviens, étant petit, il était plus facile d'avoir accès à des bandes dessinées occidentales comme... Super Picsou Géant, Black Le Rock, ce qui fait en sorte que lorsqu'on grandit, l'imaginaire des jeunes Africains est préparé, est cadré pour beaucoup plus s'intégrer dans un milieu étranger que dans le milieu dans lequel ils ont évolué. Oui. Donc, je me souviens, je connaissais la neige, je connaissais la Tour Eiffel, je connaissais beaucoup de villes de l'étranger, de Paris et de Belgique, puisque c'était de là que venaient la plupart des bandes dessinées, mais je ne connaissais pas l'histoire du Cameroun, ni l'ensemble des tenants et aboutissants du pays. Donc, c'est une lutte contre l'imaginaire africain et il est important que les contenus soient équilibrés.
Et bien sûr. Il ne s'agit pas encore une fois de restreindre la fenêtre pour garder uniquement une fenêtre locale, culturelle locale, mais de l'ouvrir cette fenêtre. En effet, et vous pouvez bien sûr réagir, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. Christian Elongué, je vais vous poser une question très simple. Qui achète des livres pour enfants et pour adolescents aujourd'hui sur le continent africain ?
Ok, très très bonne question qui implique beaucoup de choses. Déjà au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de ceux qui achètent la majorité des livres sur le continent africain, les parents achètent très peu de livres pour leurs enfants, mais cela ne signifie pas que les jeunes ne lisent pas suffisamment, puisqu'il y a des échanges qui se font de façon informelle, et il y a des prêts qui se font dans les bibliothèques, et il y a des pratiques qui sont informelles mais qui ne sont pas forcément documentées ou pratiquées comme cela est le cas au niveau de l'Occident. J'insiste sur ceci parce que beaucoup de stéréotypes ont été promus selon lesquels les Africains ne lisent pas beaucoup parce qu'on se base sur des indicateurs formels. Donc en Afrique, la majorité des personnes qui achètent des livres sont les parents puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat-là n'est pas... Mais la pratique n'est pas très régulière. Donc la majorité des jeunes, pour avoir accès à des livres, soit ils le font majoritairement au travers des bibliothèques très rares qui sont locales, soit ils font des emprunts entre une personne qui achète un livre et qui partage avec les autres. Mais les parents n'ont pas cette pleine conscience d'acheter ou d'offrir des livres comme cadeau à leurs enfants sur le continent.
Laurane Safou, vous, vous vendez clairement à la diaspora, aux diasporas, mm-hmm. aux différentes diasporas africaines.
Oui, complètement, parce que c'est alors, notamment parce que de mon point de vue, j'ai vécu aussi cette absence de représentation et d'invisibilité, autant de vécu caribéen que de vécu proprement sur le continent, etc., qui ne m'ont pas été accessibles jeunes. Là où ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais c'est vraiment une question de diffusion, de distribution, d'accessibilité à ces créations-là qui n'étaient pas, en tout cas pour ma génération, qui a créé aussi cette carence. Et aujourd'hui, donc proposer justement dans une démarche d'une littérature réellement représentative, montrer en fait la diversité des vécus qui peut exister, notamment dans les Lumineuses où on peut voir différents pays d'Afrique de l'Ouest et les aussi voir où ils sont situés sur la carte, etc., etc. Il y a un enjeu éducatif, il y a un enjeu aussi de montrer qu'il y a des histoires aussi qui sont à creuser, puisque là encore, même pour les Lumineuses, je me suis inspirée autant de croyances, de religions que de mythes en fait présents sur le continent, qui sont souvent abandonnés et qui souffrent un peu d'un manque, je pense, de tendance, là où on a vu du côté de l'Afrique anglophone une sorte de resurgence un petit peu de toutes ces influences en fait historiques et culturelles.
Allez, on retourne au standard, on vous donne la parole. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, quel que soit votre âge d'ailleurs.
Bonjour Emmanuel, c'est Lucas à Kinshasa, j'ai 7 ans. J'aime beaucoup le conte pour enfants. Moi, le conte que je préfère, c'est le singe et la tortue et l'araignée et l'éléphant. Maman m'achète des livres pour enfants. Je vais à la bibliothèque de l'école. J'aime beaucoup les bandes dessinées, il y a des aventures. Et j'aime aussi tous les contes pour enfants. À bientôt.
Bonjour les voisins, les voisines. Je m'appelle Chérif. Je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'aime beaucoup lire les contes et les légendes depuis l'enfance. Le conte de légende qui m'a beaucoup plus marqué est celui écrit par les possédeurs Senghor et Abdoulaye Sadji, intitulé Le Lièvre. Et jusqu'à maintenant, quand j'apprends mes leçons, c'est comme si je suis en train de lire un conte et légende. Donc, quand je lis une fois, deux fois, presque je peux même aller raconter le cours à quelqu'un d'autre. C'est comme si on m'a raconté un conte et légende.
Et puis il y a aussi Madi qui nous a posté ce message écrit, qui est à Saraya au Sénégal. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais les livres fantastiques avec beaucoup de dessins. Ces livres m'aidaient à m'exprimer, à exprimer mes idées auprès de mon papa, de ma maman, de mes frères et de mes sœurs. Voilà. Est-ce que, Christian Elonguet, vous êtes en ce moment au Ghana. Est-ce que la zone anglophone en Afrique a une production plus accessible de littérature, de livres pour enfants et pour adolescents?
Oui, oui, je répondrai absolument oui. La dynamique, c'est-à-dire le marché du livre jeunesse en Afrique anglophone est plus dynamique. On retrouve beaucoup plus de maisons d'édition qui sont spécialisées sur le livre pour enfants. Et il y a également beaucoup d'événements littéraires qui sont autour du livre pour enfants, qui rassemblent les professionnels pour échanger, débattre et mettre en place des initiatives pour la promotion du livre jeunesse. Au niveau d'Accra, il y a Accra Book Fair. Au niveau du Kenya également, il y en a. Au niveau d'Afrique du Sud et du Nigeria, ils sont un peu comme les capitales du livre jeunesse en Afrique anglophone. Mais la production est plus grande, plus structurée. Les éditeurs sont plus collaboratifs dans l'espace anglo-saxon que dans l'espace francophone.
Parce que ces pays ont pris conscience qu'il y avait un marché économique pour la classe moyenne africaine, ou bien par tradition, parce qu'on sait qu'en Afrique anglophone, il y a déjà une tradition universitaire d'ateliers d'écriture, par exemple, qui existe peu dans la tradition francophone.
Oui, les deux éléments se complètent. Historiquement, nous savons déjà que il y a eu une certaine plus liberté artistique et culturelle dans l'espace anglophone par rapport à l'espace francophone depuis la colonisation. Et également, cette liberté historique-là sur la créativité a fait en sorte que, si je prends le cas du Ghana où je suis actuellement, le gouvernement a des mesures incitatives pour les éditeurs au niveau du prix du prix d'importation du matériel d'imprimerie, du coût d'accès au papier. Il y a cette petite mesure-là qui facilite le travail de l'éditeur.
Vous voulez dire qu'il y a une baisse de la TVA sur l'importation du papier quand il s'agit d'éditer des livres de jeunesse, par exemple, au Ghana ?
Oui, par rapport aux pays francophones, les mesures sont plus favorables ici.
Oui, ben ça, effectivement, vous avez tout dit quand vous dites ça, parce que j'allais vous poser la question pour les pouvoirs publics en Afrique francophone. Comment les pouvoirs publics sont sensibilisés ? C'est un non-sujet pour le moment ou pas ?
Je pense que c'est un sujet dont ils sont conscients, mais sur lequel ils ne veulent pas mettre des moyens, puisque pour que le livre jeunesse puisse s'épanouir en Afrique francophone, il faut mettre en place des politiques publiques sur le livre et la lecture, ou alors des politiques sur le livre et jeunesse. Si on regarde en Afrique francophone, il y a très peu de pays où il existe un salon du livre jeunesse comme celui qui est actuellement en cours au niveau de France. Cela montre le peu d'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la création artistique et culturelle.
Ouais. Si on prend la Côte d'Ivoire, qui serait en tête des pays francophones, avec le Sénégal, il y a moins de 200 titres qui sont publiés chaque année, donc c'est très peu. Et puis ensuite, derrière, on a le Bénin, le Cameroun, hein, votre pays d'origine, Christian Elongué. Mais c'est vrai que la production est très freinée pour des raisons économiques, vous l'avez dit. C'est cher de produire du livre, d'éditer, il faut des professionnels. Il y a aussi la question de l'imprimerie. L'édition, on ne va pas se mentir, les acteurs de terrain le disent, le frein, c'est l'emprise aussi des éditeurs français, Christian Elongué.
Oui, justement. Mais avant d'en venir à l'édition française, par rapport aux auteurs, j'avais mené une étude de 2016 à 2018 sur le livre jeunesse en Afrique francophone, et cela avait révélé que la majorité des livres francophones pour enfants sont publiés en dehors d'Afrique. Ça veut dire que ce sont les auteurs de la diaspora qui ont la majorité des œuvres de jeunesse sur l'Afrique. Comme pour dire que s'il y a 10 livres jeunesse, on aura 7 qui sont publiés soit en France ou en Belgique par des éditeurs étrangers et 3 qui seront publiés sur le continent en termes de quantité. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et qui est vraiment très critique, parce que ces auteurs migrent vers la France parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un marché qui existe déjà là-bas. La conscience sociale, les gens sont plus disposés à acheter des livres pour enfants sur l'Afrique pour reconnecter leurs enfants avec les réalités africaines. Ce qui fait donc en sorte que les éditeurs français, en termes de part de marché économique, sont ceux qui se régalent le plus par rapport aux revenus que génère l'industrie jeunesse africaine. Et il y a donc cette même base-là sur l'industrie du livre, surtout en Afrique francophone, où avec l'édition scolaire...
Oui. Pour l'instant, c'est sur l'édition scolaire que l'argent se gagne. Hein. On va pas se mentir non plus, c'est pas sur les livres pour enfants et pour adolescents, même si à terme, c'est évidemment un marché très, très prometteur. Laurane Safou, vous êtes une autrice française, issue de la diaspora congolaise. Vous avez grandi en France. Et donc forcément, vous êtes éditée en France pour vos livres.
C'est ça, et je pense aussi qu'il y a quand même
Vous n'allez pas taper sur votre éditeur, évidemment.
Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai eu conscience très vite, c'est notamment sur l'accessibilité de mes propres publications, à savoir est-ce que, justement, comme Un Million de Papillons Noirs est sorti, donc mon premier livre jeunesse, est-ce qu'il serait disponible justement en Afrique francophone, ou est-ce qu'il serait disponible même dans les dom-tom, etc., etc. Donc je suis consciente aussi que j'ai des bénéficies en tant que femme française, c'est un rapport de pouvoir.
Et ça serait votre rêve d'être vendue en Afrique, lu en Afrique ?
Oui, complètement, et surtout d'avoir aussi la possibilité d'aller là-bas lors de rencontres littéraires, puisqu'il y en a, même si, comme l'a très bien dit Christian, c'est quand même souvent des initiatives indépendantes, associatives, ou alors, qui n'ont pas forcément de subventions.
Surtout que Fadilla, Le Chant de la Rivière, hein, tiré de la série Les Lumineuses, c'est vraiment des histoires aussi pour les enfants sur le continent africain,
exactement.
Bien évidemment. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, 33 7 64 45 51 41. On fait une pause musicale et poétique, Les Abeilles Endormi de David Sicard.
Venez donc mes abeilles, j'ai quelques raisons de craindre qu'on ne soit à la veille d'une ère sans nulle saison, d'un temps sans mesure aucune qui bat toujours son plein. unique dessin. Aussi ne faut-il davantage que je tarde à vous mettre à l'abri et à porter en moi le message du chant des abeilles endormies. Ça tourne. Croyez bien mes abeilles que je n'ai guère d'autre choix que celui de faire que sommeil celles qui ont tant de poids sur le fragile équilibre de la vie. Fait feu d'artifice en sa chair. De tout mon cœur, je déplore que de ces maladies qui fleurissent, qui nous frappent aux corps et aux corps, vous soyez malgré vous les complices. Ça tourne rond dans ma tête, fait de beaux sillons. Plus rien ne m'arrête, je suis dans l'air de ma rébellion.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et on se questionne sur l'édition jeunesse en Afrique. Ces histoires pour enfants, pour adolescents sur le continent le plus jeune de la planète, des histoires qui manquent, qui ne sont pas assez nombreuses pour permettre aux enfants et adolescents de mieux comprendre leur patrimoine culturel, leur histoire commune. Christian Elongué, qui est camerounais, qui a fondé une association pour soutenir l'édition jeunesse en Afrique, nous le disait au téléphone il y a quelques instants, il est toujours en ligne avec nous, il a créé l'association Mouna Kalati. Vous nous disiez, Christian Elongué, que effectivement, les enfants ont grandi avec, pour vous, pour votre cas, Picsou, des bandes dessinées européennes ou américaines, ce qui n'est pas un problème en soi d'ailleurs, hein, c'est juste que la fenêtre est un peu trop étroite. Laurane Safou est autrice, jeunesse, militante afro-féministe, elle est avec nous dans le studio, elle publie des livres pour enfants hélas, pour le moment, trop souvent destiné à aux diaspora, mais ça va changer, ça change. Il y a des choses qui sont en train de bouger sur le continent africain. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole. Dites-nous, quel que soit votre âge, quel que soit le pays d'où vous nous appelez, avec quoi vous avez grandi comme type de héros ou d'héroïne. Astou est en ligne avec nous de Dakar. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Astou, vous avez 22 ans, il y a un auteur qui vous a marqué dans votre jeunesse, enfin pas si lointaine d'ailleurs.
Oui, c'est le livre « Sous l'orage » de Seydou Bodian.
Oui, Seydou Bodian qui est un écrivain malien.
Oui, voilà, c'est un fait ça. Et c'est l'histoire d'un jeune couple qui tombe amoureux et dont le père de la fille n'est pas d'accord.
Ah, oui.
Et vous mariez sa fille à un riche et vieux marchand.
Oui.
Et pour pouvoir se réunir, ils vont devoir se battre pour l'amour.
Oui. Et qu'est-ce que ça vous a appris, cette histoire, à vous, Astou?
Ça ouvre plein de perspectives, en fait. Parce que ça m'a appris à me battre pour ce que je veux vraiment. Car c'est pas évident, surtout ici en Afrique, que ses parents veulent une chose pour toi et toi tu veux l'inverse. C'est pas vraiment évident.
Oui. Eh bien, merci de nous avoir appelé parce que votre témoignage, Astou, est extrêmement important. Laurane Safou, voilà une situation concrète vécu par des millions de gens sur le continent africain, la question des mariages arrangés, et qui est donc riche d'enseignements finalement, mm-hmm. quand la littérature nous enseigne comment se positionner dans notre société par rapport à notre propre vie.
Complètement, parce qu'en fait, le but quand même du livre, c'est d'être aussi un miroir sur notre propre vécu, sur les choix que l'on veut faire, surtout dans notre jeunesse, mais aussi pour devenir adulte, sur la confiance en soi aussi. Enfin, y a, c'est pour ça que c'est un média culturel qui, on l'oublie souvent quand même, était l'un des premiers justement à renvoyer un imaginaire qui puisse nous remettre en question sur les choix que l'on veut entreprendre en général, quitte à ce que ce soit par rapport à nos proches ou par rapport au monde extérieur plus largement.
Astou, vous êtes toujours en ligne avec nous à Dakar. Ce livre de Seydou Badiane, vous l'avez découvert quand vous étiez au collège, hein, c'est ça ?
Oui.
Mais quand vous étiez vraiment une petite fille, est-ce que vous aviez accès à des livres pour enfants avec des illustrations et des histoires très simples que vous pouviez lire quand vous aviez, je ne sais pas, 8, 10 ans ?
Non, pas du tout.
Rien
parce
du tout.
Non, pas du tout. Ça n'a pas évident d'avoir accès aux librairies, car la plupart vont à l'école coranique. Les parents ne veulent pas, étant jeunes, que leurs enfants lisent, car pour certains, ils vont s'occidentaliser, je crois.
Oui. La peur d'occidentaliser les enfants. Évidemment, à l'école coranique, on n'a pas cette peur-là, mais question littérature de jeunesse, forcément, c'est un peu plus réduit. Laurane Safo, je voudrais qu'on écoute un extrait de votre livre audio, parce que vous avez dupliqué vos livres écrits en audio. On écoute tout de suite un extrait de Fadilla et le chant de la rivière.
À Cannes, qu'est-ce que l'on va faire ? Cela fait déjà 3 jours que nous n'avons rien pu pêcher. Si ça continue, on n'aura plus rien à manger.
Je sais bien, Ibrahim. Mais tu vois bien que nous avons tout essayé, non ?
Excusez-moi.
Les deux hommes se retournèrent.
Mais qu'est-ce qu'une petite fille comme toi fait là, toute seule ?
Je m'appelle Fadia, et je suis une fille de Lumineuse. J'ai remarqué vos barques brisées et vos filets percés. Peut-être que je peux vous aider ?
Les pêcheurs échangèrent un regard hésitant. Ce n'était qu'une enfant, mais après tant d'échecs, peut-être n'avait-il rien à perdre à lui demander son aide et sa magie.
Eh bien voilà, nous venons souvent pêcher ici, mais il y a 2 jours, la déesse de la rivière nous est apparue. Elle dit qu'avec nos filets, nous lui avons volé son instrument de musique. Et tant que nous ne l'aurons pas rendu, nous ne pourrons plus pêcher ni naviguer.
Nous avons cherché dans tout le village cet objet. Sans jamais le trouver. Alors nous lui avons fabriqué tous les instruments que nous connaissions. Mais rien à faire. La déesse nous refuse son pardon.
Mais quel est cet instrument ?
Ça, nous l'ignorons. Elle dit que c'est un instrument unique qui accompagne le chant de la rivière et dont elle seule connaît l'air. Nous n'avons pas osé lui demander plus de détails, de peur qu'elle nous change en bétail.
C'est un vrai casse-tête ! Comment peut-on trouver ce qu'on ne connaît pas ?
Fadilla et le chant de la rivière, un extrait du livre audio. Alors évidemment, on ne voit pas les très très belles illustrations du livre papier. Laurane Safo, pourquoi aussi une version audio ?
Tout simplement parce que déjà, les éditions Luni ont cette offre en fait, d'histoire audio propose pas mal d'histoires sur différents continents, différentes cultures et autres. Et Les Lumineuses, c'était aussi la première œuvre en fait à proposer justement propre à l'Afrique de l'Ouest entre autres. Donc donner aussi une dimension audio à ces histoires, c'est aussi proposer un contenu plus immersif, c'est aussi jouer sur les sonorités, sur les ambiances, c'est aussi vraiment donner une autre dimension à la notion de voyage, puisque de la même manière que Les Lumineuses vont aller parfois dans un désert, elles peuvent aussi traverser des forêts tropicales. Donc voilà, il y a un peu aussi cette idée de proposer un univers sonore autour de ces histoires-là.
Ouais. Ça nous donne l'occasion d'évoquer les débouchés grâce au numérique aussi pour la littérature jeunesse. Christian Elanguet, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui. Effectivement, le numérique aujourd'hui, je ne veux pas dire une solution magique, mais un catalyseur qui peut résoudre ou accélérer beaucoup de problèmes auxquels les acteurs du livre pour enfants sont confrontés. Par exemple, Laura a indiqué la difficulté d'avoir accès au marché africain. Or, avec le numérique, aujourd'hui, il est possible, sur des applications, de mettre des contenus et que ces contenus-là puissent être accessibles partout sur le continent et dans le monde. Et à cet effet, il y a quelques applications qui ont été développées et qui contribuent dans ce sens-là. L'une de ces applications, par exemple, c'est Bibook. Bibook, qui est une application made in Africa par des développeurs africains, WeCare Solutions, et la culture en partage au niveau du Mali. Et ils mettent à disposition des livres à la disposition du public. Il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Il y a également Dashbook, qui est une organisation à but non lucratif sud-africaine qui donne des livres avec des histoires illustrées gratuites sur l'application. Donc, il y a également Vox, qui permet également d'écouter des histoires, de lire sur la même application et qui dispose d'un large éventail de livres pour enfants. Donc, comme vous dites que le numérique contribue vraiment à briser les barrières et à traverser les frontières entre les auteurs, les éditeurs et les lecteurs. Mmh. Donc, c'est un outil qu'il faut davantage explorer. Et c'est sûr
que des jeunes comme Astou qui nous a appelé, d'ailleurs on la remercie pour son témoignage, et qui nous disait que oui, à 8 ans ou à 10 ans, elle n'avait absolument rien à lire, hein, et qu'il a fallu qu'elle attende d'être au collège pour découvrir certes des auteurs africains, mais ce qui ne sont pas des auteurs jeunesse à proprement parler. C'est sûr que le numérique, là, a une carte à jouer pour les enfants, parce qu'on pourrait avoir accès à des histoires tout simplement à partir d'un smartphone. On n'a pas évoqué la question de la langue. Christian Elonguet, bon, vous, Laurent Safou, vous écrivez en français, mais la question des langues africaines, est-ce que c'est au cœur aussi de la production pour les auteurs qui ont du mal à se faire reconnaître? Est-ce qu'en même temps, ça serait un frein pour qu'ils puissent être davantage panafricains? Qu'est-ce que vous en pensez?
La question des langues est assez sensible, puisque il y a de cela dix ans, j'aurais dit que la question des langues serait capitale, mais au fur et à mesure que le temps évolue, on se rend compte que beaucoup de jeunes Africains, malheureusement, surtout dans l'espace francophone, maîtrisent de moins en moins leur langue maternelle ou les langues nationales africaines. Ce qui fait en sorte que produire un livre en langue africaine, ce serait une très bonne idée, mais le marché sera assez réduit. Mais en termes d'enjeux culturels, en termes d'enjeux au niveau de la lutte pour les imaginaires, il est essentiel de produire également des livres en langue africaine, parce qu'il y a tout un marché là-dessus, pour la traduction, l'imprimerie et autres, et cela va permettre de développer les industries culturelles nationales des pays francophones. Donc, il y a quelques éditeurs qui sont en train de faire des efforts dans ce sens-là, mais c'est beaucoup plus à travers des livres bilingues, c'est-à-dire il y a une version en français et il y a une autre version dans une langue nationale qui, le plus souvent, est la langue majoritaire du pays.
Dans une langue nationale ou dans une langue qui représente un bloc linguistique, hein, pour établir, je ne sais pas, sur du mandinkan, sur du swahili, c'est sûr que c'est un marché plus large que le Kinyarwanda ou le Wolof, hein, même si je n'ai rien contre les politiques du livre jeunesse au Rwanda et au Sénégal, mais c'est sûr que sur le plan économique, c'est plus réduit. Merci en tout cas infiniment. Laurent Safou, autrice jeunesse, vous publiez Les Lumineuses, album illustré, papier et audio, 12 histoires chez l'UNI, ma fabrique à histoire. Il y a déjà d'autres histoires qui sont en prévision.
Ça va arriver, je pense.
Et merci à vous, Christian Elonguet. Vous avez créé l'association Mouna Kalati, qui est dédiée justement à l'actualité de la littérature d'enfance et de jeunesse en Afrique. Et vous êtes basé à Accra, au Ghana. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Christian.
Merci. Si je puis partager un dernier mot, simplement lancer un appel aux décideurs publics, surtout dans le gouvernement et de la société civile, à investir davantage dans la promotion du livre jeunesse, surtout au niveau des écoles normales, pour former les enseignants sur la médiation du livre, à créer des prix littéraires pour institutionnaliser le livre jeunesse et à investir dans le numérique, parce qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans.
Ouais. Un marché économique, un marché culturel, une fierté aussi intellectuelle. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir fait partager ce très très beau sujet sur la littérature jeunesse sur le continent africain. Dans quelques instants, ce sera les conseils aux parents du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Ça sera juste après le collectif Voilà, une aventure de danse, de funk et d'africanité.
Mokachembe, 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 Abulimia. Makachembe, Abulimia. Makachembe, 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 Abulimia. Makabaje, Abulimia. Saka fait moi senti comme un bien léa. Ça manque à sentir qu'à lever l'esprit, moi. Non, c'est, m'en pas tout seul. C'est solide, groupe d'entier pour faire ça, fait moi. Chaque jour, c'est un lot de chimé. Mais m'en cabage à Bolinia. Chimberette, pas molly, c'est molly à qui est. M'en peut pas imaginer un lot de rêve. En l'autre temps, en l'autre monde, en l'autre l'univers. Mon kachembe, pas ni plaire. La paix en dit dans chez moi, et m'en les ouais clair. Et m'en la et puis tout le monde voit ça là. On n'y même pas essayé, chembe moi en bas. Quitte l'amour, oui, j'y sens l'air. Mon kabadje à Bolinia. Chembe, 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 Abulimia. Abulimia. Chembe, 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 Abulimia. Abulimia. Chembe, 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 Abulimia. Abulimia. Chembe, 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 Abulimia. Abulimia.
Du collectif Voilà, vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et nous retrouvons le psychologue Ibrahima Girou à Dakar pour les conseils aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Bonjour Ibrahima Girou.
Bonjour Emmanuel.
Vous collaborez à l'UNICEF et aujourd'hui nous allons discuter avec vous des dangers d'une séparation précoce parents-enfants. Je veux parler, ou vous voulez parler, du phénomène du confiage, qui est une pratique qui existe toujours sur le continent africain, qui ne fait pas que du bien aux enfants et aux familles. Et pour vous, vous dites en tant que psychologue qu'il s'agit d'une séparation trop précoce parents-enfants, c'est bien cela ?
Tout à fait, Emmanuel. C'est une pratique qui est malheureusement mal comprise également, aussi bien par ceux qui la vivent que par ceux qui la critiquent parfois. Si nous regardons les raisons d'abord et les intentions qui fondent le confiage, on comprend qu'en réalité, et contrairement à ce qui se dit sur la démission des parents et leur supposée fuite en avant, fuite de responsabilité, pardon, le confiage est un outil qui opérationnalise une grande philosophie qui voudrait que les enfants n'appartiennent pas aux parents biologiques et la communauté est responsable de leur éducation. Cela implique, Emmanuel, que tous les membres de la communauté sont supposés avoir une certaine communauté de compréhension, une certaine compréhension, un certain engagement partagé vis-à-vis des valeurs et des meilleures manières d'éduquer les enfants. On dit bien qu'il faut un village pour éduquer un enfant.
Et c'est vrai que sur le continent africain, les enfants sont moins coincés dans un face-à-face avec leurs parents, comme en Europe, comme en Occident en général.
Tout à fait, Emmanuel. C'est parce qu'il y a tout le monde qui met sa main dans leur éducation. En fait, Emmanuel, le confiage est un outil puissant pour souder les relations familiales et communautaires. Par exemple, au Sénégal, on pouvait même, entre guillemets, offrir son enfant à un parent n'ayant pas ou ne pouvant pas en avoir. Donc, vu de l'extérieur comme ça, on pourrait penser que on chosifie l'enfant et que nous avons affaire à des pratiques un peu rétrogrades ou à des parents qui sont irresponsables. Mais la réalité est bien plus complexe que cela, Emmanuel. En réalité, l'enfant étant ce que nous avons de plus précieux et de plus cher au monde, on élève ou on relève à la même sacralité la relation avec la personne à qui on confie en réalité son enfant.
Donc, ce n'est pas par négligence ou pour punir l'enfant qu'un parent l'envoie chez son oncle ou chez sa tante. Mais dans la réalité, est-ce qu'il n'y a pas souvent beaucoup de souffrance chez les enfants confiés? Ils se voient un petit peu confisquer leur enfance d'une certaine manière.
Tout à fait. On le voit, c'est une triste réalité. Faire le linge, la vaisselle, sortir la poubelle, faire la cuisine, pour tout le monde au moment où il faut aller à l'école par exemple, être les premiers debout, les derniers couchés, prendre soin des autres enfants de la famille qui ont peut-être même le même âge, ouais, et oublier leur propre enfance, subir, comme on peut le dire, une sorte d'adultisation un peu violente, tel est parfois le quotidien de beaucoup de ces enfants confiés, c'est vrai. Et n'oublions pas non plus, Emmanuel, la souffrance aussi des parents et des enfants de la famille d'accueil. Parfois, les parents reçoivent un enfant sans en avoir fait la demande et sans y être préparés. Ils essaient de donner le meilleur soin possible à l'enfant qui est accueilli, mais parfois au détriment du bien-être de leurs enfants, qui peuvent souffrir parfois des maladresses, voire des petites méchancetés de l'enfant confié quand il cherche à faire sa place à tout prix. C'est un peu similaire à ce qui se passe parfois avec l'enfant adopté par une famille ayant déjà des enfants.
Oui, et ça peut être aussi des méchancetés de la part des enfants biologiques, hein, des enfants légitimes, des parents qui ne veulent pas faire de place à l'enfant confié. Alors, quel conseil donner aux parents d'accueil pour que, justement, ils créent un climat serein, sécur pour l'enfant confié, pour toute la famille?
Oui, il faut noter, Emmanuel, que les signaux que nous donnons aux enfants sont très critiques, très importants. La crainte d'être injuste avec les uns ou les autres, la peur de mal faire ou de faire mal, la peur d'être mal vu par la communauté, par la société, le manque de simplicité pour dire et faire les choses que l'on croit justes, sont autant de messages implicites qui créent ou installent une instabilité et créent même un système de relations un peu malsaine entre les enfants. Donc le message du parent qui accueille doit être univoque. Pour cela, il faut tout d'abord que le parent choisisse d'accueillir un enfant. Ensuite, s'il choisit d'accueillir cet enfant, il doit faire comprendre à tous les enfants, à tout le monde, sans aucune ambiguïté dans son message, qu'il veillera à ce que tous les enfants soient égaux en droit. Ça doit paraître très clairement dans l'attitude et le message du parent. Donc les parents doivent aussi faire preuve de génie, de créativité pour tirer le meilleur profit de cette nouvelle présence. On le dit bien, Emmanuel, plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas, à condition de dialoguer régulièrement.
La question de la semaine, Ibrahima Giraud.
Emmanuel, comment prévenir les risques de se comporter comme une lame qui déchire les liens familiaux quand on perd toutes les aiguilles censées les coudre?
À méditer donc, comment éviter de se comporter comme une lame qui déchire les liens familiaux quand on perd toutes les aiguilles censées les coudre? Merci pour la métaphore et les conseils, Ibrahima Giraud. Très bonne journée à vous, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.
Et demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des nouvelles technologies pour les personnes handicapées. Peuvent-elles améliorer leur vie quotidienne? Vous aurez la parole au 33 7 64 45 51 41. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Delphine de Dianous, Juliette Brault, Victor Hull, Raphaël Lazizi. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.